semaine, Terry va prend la relève pour la prédication. La semaine prochaine, on va terminer la série dans Néhémie. Maintenant, Terry, c'est un serviteur. Si j'ai deux qualités à mentionner sur Terry qui me frappent à travers les années, c'est qu'il est un serviteur et c'est un homme de vision. C'est un visionnaire. Terry a servi comme directeur général de notre association au niveau pan-canadien pendant plusieurs années, de nombreuses années. Je vais le laisser nous présenter un peu plus quel est son rôle maintenant. Mais Terry a tout un impact au Québec avec une vision très claire pour l'implantation d'Église. L'histoire de l'Église nous a appris que le meilleur moyen d'évangélisation partout sur la terre, c'est l'implantation d'Églises locales. Et après, l'Église entre dans l'œuvre et fait son travail d'elle-même. Et donc, Terry a une vision très claire et très forte dans l'implantation d'Églises locales. Mais dans les deux dernières années, Terry est en train de jouer un rôle important pour atteindre aussi les grandes villes au Canada. Et ici à Montréal, il a un impact. À travers son ministère, on est en train aussi de pouvoir commencer à servir d'autres familles d'églises au Québec. Et j'ai assisté à une conférence dernièrement, Aimons la ville. Terry était impliqué dans la préparation de ça, dans la vision qu'il y a derrière ça. Vraiment, il est en train de nous servir et toujours... Il veut placer l'œuvre et le royaume en avant. Il est simplement là pour servir l'avancement du royaume. C'est une de ses grandes qualités. Et dans les dernières années, je vois vraiment comment Dieu est en train de se servir de cet homme-là comme outil pour aller desservir d'autres familles d'Église aussi et toujours nous ramener avec les regards fixés sur cet objectif d'atteindre la ville de Montréal, l'île de Montréal, implanter des églises-là et partout au Québec. C'est vraiment un excellent serviteur. Merci, Terry, d'apporter le message de la parole.
J'ai le privilège d'avoir ma femme avec moi ce matin, Hélène Côte-Noire. Je suis marié à une Côte-Noire, c'est pas de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Et je suis bien content de cela. Nous allons avoir l'opportunité d'être avec Marcel et Verna Côte-Noire à midi aujourd'hui pour fêter quelque chose de spécial aujourd'hui, hein? La fête des pères. Donc, c'est un privilège pour moi d'être avec vous. Je remercie le Seigneur pour des pasteurs comme Yannick et sa vision. Il faut que je les recrute sur mon comité d'implantation. J'ai déjà son frère, donc ça sera tout un atout. Juste pour introduire un peu, j'ai un petit rapport à vous donner concernant l'implantation d'Église au Québec, puis là, on va rentrer dans la parole de Dieu. Mais vous avez vu sur l'écran, il y a 6 ans, moi et ma femme, on a déménagé de Guelph en Ontario, où j'avais la responsabilité des présidents de notre association pan-canadien, pour prendre un rôle ici au Québec avec la mission que vous avez sur l'écran. Avec une passion d'abord sur les grands centres, les mondes entiers s'urbanisent et la majorité des gens restent dans nos grands centres. Et nous avons besoin de trouver une manière d'apporter l'Évangile à eux. Des missionnaires, pour des années, ont favorisé les jongles. Je vois que vous avez un jongle ici à Longueuil. Pour moi qui ai été élevé au Brésil, j'ai hâte d'aller voir ça. Là. C'est votre dernière opportunité d'aller voir les jongles avant que le message commence. OK? Donc, et je remercie le Seigneur pour ceux qui sont appelés à des places loin où il y a très peu de gens, peut-être une tribu ou une autre culture à rejoindre. Je remercie le Seigneur pour cela. Mais je suis aussi convaincu que si nous sommes sérieux à rejoindre notre génération avec l'Évangile au 21e siècle, il faut qu'on intentionnalise notre travail envers les grands centres. Donc, c'est un peu la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller. Moi, j'ai des ministères dans 3 différentes sphères, et Nathalie va nous montrer le prochain acétate. Je travaille ici au Québec comme directeur d'implantation d'église à peu près mi-temps, avec plusieurs différentes responsabilités. Oui, encourager les églises à la multiplication. Je suis aussi responsable de la cohorte de Laval-Rive-Nord, que pour ceux qui comptent, c'est la cohorte numéro 4. On est cohorte numéro 1, mais ils nous ont donné 4 quand même. Mais on est à la 4e cohorte, des maintenant 8 cohortes de Saint-Bec. Un cohorte, c'est un groupe d'étudiants qui étudient ensemble des églises locales dans la région. Chaque samedi, par mois pendant les temps scolaires en vue d'atteindre à la fin des 6 ans un bac en théologie. Ils peuvent aussi prendre une concentration quelconque et je suis personnellement responsable de la concentration évangéliste implanteur d'église. Donc, un étudiant dans les cohortes peut choisir la concentration évangéliste implanteur d'église et avoir une formation spécialisée dans ce domaine-là. Je travaille aussi sur l'équipe de la Vision Conquérante. Je suis membre à Terrebonne-Mascouche, à la Rive-Nord. Nous avons une vision globale de commencer 20 églises en 10 ans. Donc, nous, en tant qu'église locale, avec nos églises partenaires sur la Rive-Nord, parce qu'ils sont plus pécheurs sur la Rive-Nord, hein? C'est le cas. OK? Donc, nous sommes à la Rive-Nord de Montréal, puis c'est réellement les champs missionnaires. Priez pour nous. Nous voulons atteindre les gens qui restent dans ce coin-là. Mais aussi, nous avons, par la grâce de Dieu, notre assemblée a voté d'acheter un bâtiment sur l'île de Montréal avant qu'on ait l'implanteur et avant qu'on ait les projets en place. Et on a acheté les bâtiments de l'Assemblée Maranatha sur les coins de Saint-Zotique puis Saint-Denis. Et là, Éric Lantier et Carole, sa femme, avec une équipe de lancement, sont en train de mettre un projet d'implantation. Donc, je sais que vous aussi, le leadership de votre église, est en train de prier et discuter la possibilité d'avoir une implication quelconque sur l'île de Montréal. Et je vous encourage fortement. Vous êtes en milieu urbain ici à Longueuil. Je suis très conscient de cela. Et je remercie le Seigneur pour votre présence ici. Mais il y a 1,2 million de francophones sur l'île de Montréal. Et nous avons besoin de trouver une manière de les rejoindre avec l'Évangile. C'est pas facile, c'est différent, mais Dieu peut nous aider à faire cela. Moi, j'ai agi aussi comme un coach pour nos équipes d'implantation outre-mer. Nous avons plusieurs, il y a une douzaine d'équipes d'implantation, un couple en France, Pologne avec Pierre Jutras, Suzy et Gisèle en Bulgarie. Ma femme et moi, on était là au mois de mars. Medellin en Colombie, au Chili avec Antonio et Hélène. Nous avons aussi 2 équipes d'implantation au Japon, une équipe en Indonésie. Donc, on essaie de leur outiller, leur encourager, leur former, leur encourager dans l'implantation d'églises dans d'autres cultures. Je suis aussi, maintenant, depuis le début de l'année, coordonnateur de l'implantation d'églises pour le reste du Canada. Je n'avais pas assez à faire, donc ils m'ont donné ça. En réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai outillé les directeurs d'implantation d'églises dans le reste du Canada et j'aide les régions, les maritimes, les prairies qui n'ont pas un directeur d'implantation spécifique. On a eu un projet cette année pan-canadien, 12 églises en implantation qui ont reçu de l'aide. Le projet, c'était pour 250 000. La dernière fois que j'ai vérifié, on était rendu à 276 000 pièces. Pour ces douzaines d'églises. Donc, ils vont tous recevoir un peu plus que 20 000 piastres chaque en vue de leur aider à travers le Canada et nos implantations en Indonésie qui sont aussi soutenues par ces projets. Comme Yannick a mentionné, nous avons vu Aimons-la-Ville. On a eu un projet qui était spécifiquement dirigé vers la ville de Montréal. Le but, c'est d'encourager des gens à considérer déménager sur l'île de Montréal, s'ils sont pas déjà là, et faire partie des équipes de lancement et des projets d'implantation sur l'île. Couramment, notre association a 5 différents projets actifs sur l'île de Montréal qui sont en train d'être considérés. Donc, nous remercions le Seigneur pour des mouvements qui sont en train d'avoir un impact sur l'île. J'aimerais vous introduire à mes membres du comité des plantations. Vous connaissez quelques-uns, moi comme directeur, Hugo Étier comme implanteur à Rivière-du-Loup, Jean-Pierre Gagné, implanteur à Saint-Césaire, Dominique, qui est responsable des implantations autour de l'église de Rosemont sur l'île de Montréal, Rob Karsh, qui est implanteur missionnaire à Saint-Jérôme. Il est aussi sur notre comité, il était beaucoup impliqué à bâtir notre projet Aimons-la-Ville, puis Gilles Lapierre, notre directeur régional, il est sur le comité parce qu'il veut aussi mettre l'accent sur le fait que l'implantation d'église est importante. J'aimerais célébrer nos implantations de cette année. En septembre, nous avons démarré une nouvelle assemblée à Saint-Eustache, avec Ken et Ann Taylor, natifs de Belgique, qui sert avec l'église de Terrebonne-Mascouche. Ils sont allés avec 80 personnes à Saint-Eustache. Ils sont présentement en train de mettre une offre d'achat sur le bâtiment à Saint-Eustache. Donc, nous remercions le Seigneur pour cela. Et tout le monde connaît Acts 21. Pour les bons comme pour les mauvais. Marc Pilon avec Marie-Hélène et un groupe, une centaine de personnes de Rock Forest sont allées au théâtre Grenada, centre-ville, premier culte, 500 personnes. Depuis, ils ont 300 personnes au théâtre Grenada et une 70 par semaine de la communauté en train d'explorer la foi dans ces réunions-là. Donc, priez pour cela. C'est un modèle un peu différent. On est affilié avec Acte 29, qui est un réseau d'implantation d'églises aux États-Unis connu pour leur doctrine saine, mais leur créativité. OK? Les deux, est-ce que les deux peuvent aller, venir ensemble? Une précision dans la parole de Dieu, mais une créativité. Notre Dieu est un Dieu de créativité. Il veut qu'on soit créatif dans notre manière de connecter avec la culture. Donc, nous remercions le Seigneur pour cela. Cette année, trois églises sont arrivés à leur autonomie financière, l'Église baptiste du lac Saint-Louis à Châteauguay, l'Église de Laval-Est et aussi l'Église de Saint-Jérôme a commencé à soutenir leur pasteur Jacob Mathieu à temps plein à partir de cette année. Ils ont démarré en 2008, donc nous remercions le Seigneur pour ces églises. J'aimerais vous informer où on est rendu dans notre vision. En 2003, nous avons démarré une vision de notre association, de notre famille d'églises, d'arriver à 2013 avec une centaine d'églises. Donc, le démarrage de 30 nouvelles églises en 10 ans. Trois églises par année. Où est-ce qu'on est rendu? Là, présentement, après notre congrès de la semaine passée, on est 63 églises membres, 22 en développement, c'est des églises en implantation. Une église en réimplantation, c'est l'église de Plessisville qui s'est fermée, s'est joindre à Victo. Il va réimplanter à Plessisville sur Calfortin. Même nos équipes de Gibec sont là cette semaine. Priez pour eux. On a trois autres actifs et en réalité, le chiffre 5 devrait être un chiffre 8 à venir où il y a déjà de l'activité pour des nouvelles implantations. Ça fait un total de 97 projets et église locale. Gloire à Dieu, on est quasiment rendu. Pense pas qu'on va se rendre à 100 avant la fin de 2013, mais pas loin après. Et nous remercions le Seigneur pour cela. J'aimerais vous introduire un nouveau projet qui va démarrer. On a trois églises qui démarrent en septembre. Deux le 11 septembre, un le 25 septembre. L'église du coin. Est-ce que vous connaissez l'église du coin? Sur le coin des Inzotiques et Saint-Denis. On l'appelle l'église du coin. La porte est dans le coin. Elle est là. Mais c'est l'église du coin. OK? Donc, on l'appelle l'église du coin. Le 11 septembre, ils vont démarrer avec Éric et Carole Lantier. L'église de... Quel autre va démarrer? Il y a trois... Je devrais... Il y en a tellement que j'ai perdu mes notes. Je devrais savoir. Oui! Trois-Rivières est en train de prendre une initiative à la rive sud de Trois-Rivières, l'autre côté du pont. Ça s'appelle Saint-Grégoire. Quelqu'un de Saint-Grégoire ici? OK, pas ici, c'est aujourd'hui, OK. Mais Saint-Grégoire, Israël Luc Godfrey et les pasteurs implanteurs priaient pour un local. Il manque un local à la rive sud. Présentement, ils sont en train de se rencontrer à Trois-Rivières, comme une église séparée. Comme une implantation, mais en septembre, ils vont démarrer pour les vrais sur la rive sud. Mais il faut qu'ils trouvent une place. Donc, priez pour ça. Priez pour des bâtiments. Malheureusement, ça nous prend de l'espace pour faire du ministère. Couramment, on a 9 églises qui cherchent un bâtiment. Rivière-de-Loup, merci Seigneur pour ce qui est arrivé. Deux autres églises, cette semaine, a eu du financement miraculeux. Un donateur qui nous a donné des centaines de milliers de dollars pour faciliter l'implantation dans deux églises, un sur l'île de Montréal et une autre loin d'ici. Mais on a de ça, on a 7 autres qui cherchent un bâtiment. Donc, priez que le Seigneur accomplisse un miracle dans chacune de ces situations-là. La famille grandit. Vous avez, Nathalie, tu peux changer l'écran là. Nous avons un projet ici au Québec pour soutenir nos implantations d'églises. Beaucoup de notre soutien à date est allé à travers l'œuvre française de notre association à Guelph, Ontario. Au début de cette année, pour la première fois, les églises au Québec sont en train de soutenir leurs implantations à travers notre bureau à Montréal. Donc, on a 4 nouveaux projets qui font partie de notre financement, soit comme église ou comme individu. Vous pouvez soutenir ce qu'on appelle la famille grandie. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle implantation, on vous envoie un pamphlet qui explique le projet. Vous pouvez le soutenir soit à travers votre église locale ici, un projet spécifique ou la famille grandie d'une manière générale, ou même comme individu, vous pouvez donner à travers notre site web de l'association. Ça, c'est notre manière au Québec de soutenir nos implantations. Le budget de cette année, c'est autour de 30 000 piastres. En 4 ans, moi, je veux voir ces montants-là être 100 000 piastres. Maintenant, la réalité, c'est que nos églises au Québec donnent déjà 100 000 piastres aux implantations d'églises au Québec ici. Mais ils le donnent à travers Guelph. À mesure que ces églises de l'œuvre française arrivent à leur autonomie financière, nous voulons que nos églises transfèrent cet argent-là à des nouveaux projets à travers notre association, à travers la famille grandie. Si nos églises font ça d'une manière fidèle, on aura les 100 000 piastres nécessaires pour soutenir les différents projets d'implantation qui vont avoir lieu dans l'avenir. Donc, continuez à prier pour cela. Priez aussi pour les implanteurs. Pour accomplir notre vision, nous avons encore besoin de 8 implanteurs d'église. Donc, priez pour les implanteurs. Ça, c'est les choses la plus importante. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui peut-être a l'air d'un implanteur, c'est quoi qui a l'air d'un implanteur? Viens me voir pour savoir qu'est-ce qui a l'air d'un implanteur. Vous pouvez aller à quelqu'un et dire, « Hey, t'as l'air d'un implanteur, toi. » OK? Viens me voir. Et nous allons les encourager. Prochain, s'il te plaît. Dieu, je prie chaque matin que Dieu nous envoie des ouvriers. Et Dieu a répondu les prières. Il a envoyé 2 Américains. Il y a un projet centre-ville de Montréal qui s'appelle Initiative 22. C'est un projet d'acte 29. 2 Américains, un de Portland, Maine, et l'autre de Portland, Oregon. Ils se sont rencontrés, ils ont fait équipe ensemble, sont en train d'apprendre les français, leur ministère est bilingue, centre-ville de Montréal, puis ils veulent se joindre à notre association. Donc, Dwight Bernier et sa femme, et Brian Stegner, sont en train d'initier des communautés, on l'appelle des communautés, vous l'appelez ici, des petits groupes en mission. Pareil comme ce que vous êtes en train de faire ici, sauf qu'eux, ils démarrent avec des petits groupes en mission. Il y en a 3 déjà, ça se multiplie très vite, puis nous remercions le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire là. Et Dieu est même capable de travailler à travers des Américains, c'est un miracle. OK. Prions pour cela. Et nous remercions le Seigneur pour eux. Ils sont envoyés par Dieu et nous remercions le Seigneur pour eux, mais nous voulons aussi voir des Québécois en train de faire leur ministère là. Donc, dernier diapo, c'est Jésus lui-même qui a dit, « Je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Luc, chapitre 4, verset 43. « Priez que Dieu nous envoie d'autres couples pour implanter d'autres églises dans d'autres villes. Il y a 30 implanteurs présentement occupés à développer des projets ou des églises dans 30 communautés de notre champ missionnaire. Nous pouvons aller de l'avant seulement dans la mesure où le Seigneur nous envoie des ouvriers dans la moisson. Donc, nous avons besoin des 8 de plus pour compléter la vision. Priez pour des ouvriers. OK? Donc, juste avant de rentrer dans la parole, j'aimerais qu'on prie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la vision que nous avons de l'expansion du royaume de Dieu ici au Québec et à travers les Québécois jusqu'aux extrémités de la terre. Et je te remercie pour des hommes et des femmes qui ont répondu à ton appel. Pas seulement pour une autre communauté ici au Québec, mais dans les mondes francophones des maritimes, parmi les franco-ontariens, parmi les Polonais, les Bulgares. Merci, Seigneur, pour le travail que tu es en train de faire à travers des Québécois. Mais Seigneur, on est loin d'avoir rejoindre tous ceux et celles que toi t'aimerais voir dans le royaume de Dieu ici, dans notre population. Rends-nous fidèles, Seigneur, je te prie. Et maintenant, quand nous rentrons dans ta parole, Seigneur, ouvre nos yeux, donne-moi clarté dans la communication. Seigneur, que ta puissance puisse se manifester à travers ma faiblesse dans la communication. Aide ces gens, Seigneur, à me comprendre, comprendre ta parole par ton esprit et la mettre en pratique dans leur vie pour ta gloire, pour ton bien et pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. OK. J'ai appelé le message ce matin, tout le monde sur le pont. Vous comprenez cette expression-là? Si vous êtes en navire, puis vous avez des activités spécifiques à faire, puis il y a de l'action qui arrive, il y a une annonce qui sort partout sur le navire qui dit « Tout le monde sur le pont! » Moi, j'aimerais vous dire, Église évangélique baptiste de Longueuil, « Tout le monde sur le pont! » Il y a une place, comme dit le sous-titre, « La croissance de l'Église passe par chaque croyant. » Vous êtes tous impliqués. Nous avons besoin de l'œuvre de chaque individu pour que le royaume de Dieu avance. Ce n'est pas quelque chose des gens particuliers, des professionnels. Il faut que vous soyez payés pour travailler à l'avancement de l'œuvre. Chaque croyant a un rôle à jouer dans l'avancement du royaume de Dieu. Je vais prêcher le message que j'ai prêché au congrès il y a une semaine à Saint-Hyacinthe. Le but de l'exercice, c'était de démontrer que la croissance de l'Église passait par chaque leader et chaque croyant. J'ai été donné la responsabilité de parler de chaque croyant. Et ce matin, je veux mettre l'accent sur cet aspect-là. Maintenant, le thème de mon message est sur la croissance de l'Église. Donc, la première question, c'est est-ce biblique, la croissance de l'Église? Éphésiens, chapitre 4, le verset 16. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacun de ses parties. Ça vient du Saint-Marc. Je veux spécifiquement que vous réalisiez ici qu'il ne se dit pas « tire sa vie ». Au tire son existence. L'auteur pourra avoir choisi, l'apôtre Paul pourra avoir choisi un de ces mots-là. Il a dit spécifiquement, tire sa croissance. C'était l'objectif de Dieu que l'Église de Dieu grandisse. Pas vrai? Êtes-vous là? Oui. Testing?
OK.
Deuxièmement, donc la croissance est importante. Maintenant, si je parle de la croissance de l'Église qui passe par chaque croyant, est-ce que ça c'est biblique? Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce qu'il y a quelques-uns de ces sortes-là ici? Ceux qui appartiennent à Dieu. Oh, quelques-uns, c'est encourageant. OK? Ceux qui appartiennent à Dieu. OK? Ça c'est nous là. Chacun de nous. Et j'aime cette phrase. Sois rendu apte à accomplir leur service. Que chacun qui appartient à Dieu soit rendu apte à accomplir leur service. Mes frères et sœurs, tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le pont. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun, qu'on le met au service des autres. Quand nous parlons de la croissance d'Église ici, nous parlons de l'expansion du royaume de Dieu à Longueuil, au Québec, dans les mondes francophones d'Ontario et des Maritimes et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous parlons de la présence de plus de francophones dans les royaumes des dieux et donc au ciel avec nous devant les trônes de l'Éternel. Nous parlons de la coopérative divine, humaine, de chercher et amener d'autres au statut parfait de Christ, ne reflétant pas seulement le caractère de Christ, mais ses priorités aussi. Quand nous disons que la croissance de l'Église passe par chaque croyant, nous sommes en train de toucher une doctrine fondamentale des Églises baptistes depuis des siècles, ce qu'on appelle la prêtrise ou les sacerdoces du croyant. La prêtrise ou les sacerdoces du croyant. Je sais que c'est un peu touchy, ça c'est un bon mot français, hein? C'est un peu touchy de parler à des ex-catholiques des prêtres. OK? Mais il faut que vous ayez la vérité. Ma Bible dit, vous êtes des prêtres. C'est important que vous réalisiez cela. Ceci a fait surface tôt dans l'histoire des églises baptistes. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes au ce qu'on appelle la prêtrise ou les sacerdoces du croyant? Le ministère chrétien, vous pouvez mettre la définition, Nathalie, le ministère chrétien appartient à chaque croyant et non pas à un groupe spécial à l'intérieur du cercle plus large de l'Église. Le sacerdoce du croyant veut dire que le ministère n'appartient pas à un groupe spécifique à l'intérieur d'un cercle, mais à tous les chrétiens. Le théologien Lewis Sperry Chafer déclare que la nation d'Israël avait une prêtrise. L'Église est une prêtrise. L'Église est une prêtrise. Pourquoi croyons-nous à la prêtrise du croyant? La parole de Dieu est très claire. Apocalypse chapitre 1, les versets 5b et 6a, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. 1 Pierre 2, verset 5a, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint sacerdoce. Maintenant, il faut que vous réalisiez dans les Écritures, sacrificateur égale sacerdoce égale prêtre. C'est différents mots pour la même chose. OK? Maintenant, il y a deux vérités implicites dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. D'abord, notre prêtrise dépend 100% de la grâce de Dieu. Au contraire, dans l'Ancien Testament, la prêtrise passait d'une manière généalogique, d'une génération à l'autre. Chez nous, dans le Nouveau Testament, c'est pas le cas. Dieu le donne à chacun qui vient à lui. Deuxièmement, chaque croyant est un prêtre. Chaque croyant, sans distinction, si vous faisiez partie de la famille de Dieu, si vous appartenez à Dieu, vous êtes un prêtre selon la parole de Dieu. Maintenant, quel est le but de Dieu en faisant et appelant des croyants des prêtres? Nous avons en même temps un droit et des responsabilités. Un droit et des responsabilités. D'abord, les droits d'un croyant sacrificateur. Votre droit, c'est accès direct et illimité à Dieu. Je le répète. Votre droit est accès direct et illimité à Dieu. Romains chapitre 5, le verset 1 et 2a, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Paul nous dit dans ce texte que chaque croyant a accès libre et permanent à Dieu, et nous pouvons entrer dans sa présence à n'importe quel moment, aux places. Et ceci est notre droit. Christ nous a ouvert le chemin. En Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Aussi, Hébreux chapitre 10 nous parle de la même chose. Ça, c'est notre droit, accès direct et illimité à Dieu. Maintenant, quand vous avez des droits, vous avez aussi des responsabilités. Donc, il y a des responsabilités d'un sacrificateur croyant. Et cette responsabilité sont doubles. D'abord, d'offrir des sacrifices spirituels. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint sacerdoce afin de quoi? Afin d'offrir des victimes ou des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Notre responsabilité est d'offrir par la foi des sacrifices à Dieu. Maintenant, les sacrifices spirituels dans lesquels la nouvelle alliance concerne touchent trois domaines. Nous-mêmes, notre discours et notre substance. D'abord, nous-mêmes, les sacrifices de nous-mêmes. En tant que prêtre, le croyant est à présenter son corps comment? Comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Dieu tient chaque croyant responsable à lui donner 100% de sa vie. Ça, c'est votre responsabilité. Si vous êtes prêtre devant Dieu, Dieu doit, vous devrez lui donner 100%, un sacrifice vivant. Donc, les sacrifices de nous-mêmes. Deuxièmement, les sacrifices de notre discours. Hébreux chapitre 13, vous pouvez y tourner dans vos Bibles, s'il vous plaît, parce qu'on va passer un couple de minutes dans ce passage. Hébreux chapitre 13, d'abord le verset 15, les sacrifices de notre discours. Par lui, dit verset 15, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Maintenant, moi, j'appelle ça des louanges publiques. Et vous avez besoin de réaliser ici qu'elles se manifestent de deux manières, dépendant de l'audience. Quand nous sommes avec d'autres croyants sacrificateurs ensemble, comme c'était le cas ce matin, notre louange publique prend la forme des louanges de reconnaissance. Nous remercions Dieu pour ce qu'il nous a fait. On a fait ça ce matin. Quand nous sommes ensemble en tant que croyants sacrificateurs, notre louange publique prend la forme des louanges de reconnaissance à Dieu. Et ça, c'est une des responsabilités des prêtres. C'est de réunir avec la famille de Dieu, comme on fait chaque semaine, et de louer Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies et dans la vie de notre communauté croyante. Ça, c'est notre responsabilité. Mais quand l'audience, c'est des non-croyants ou des gens qui ne font pas partie de la communauté croyante, notre louange publique prend la forme d'un témoignage sans honte. D'un témoignage sans honte devant le monde. Je fais pareil, mais s'il y a quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un ici qui entend nous visiter, qui ne fait pas partie de la communauté, d'abord, bienvenue. On est bien content que vous soyez ici. Ce n'est pas une famille close ici. Vous êtes les bienvenus de venir et célébrer avec nous. Mais quand vous nous entendez louer Dieu, pour vous, c'est un témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et on veut le faire sans honte. Et si vous voulez connaître plus de ce que Dieu a fait ou qu'est-ce qu'il peut faire chez vous, viens nous voir. On est plus que content de vous le dire. Et ma responsabilité n'est pas juste un témoignage de reconnaissance à Dieu, mais aussi un témoignage sans honte devant la communauté qui m'entoure. Vous me suivez? Juste pour montrer ça d'une manière plus claire dans les Écritures, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, on l'a fait, on l'a fait ce matin, ensemble, en tant que famille de Dieu, mais on a à le faire devant le monde aussi. Avec moi? Ça, c'est nos responsabilités en tant que prêtres. Accès libre et permanent devant Dieu. Mais nous pouvons aussi, Dieu nous demande des responsabilités, de porter un sacrifice de nous-mêmes, les sacrifices de nos louanges, de reconnaissance, un sacrifice de notre témoignage sans honte devant le monde. Maintenant, le sacrifice de notre substance. Les prochains versets en Hébreu chapitre 13 dit, verset 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. » Dans la Bible du Saint-Marc, c'est l'entraide qui est les mots là. Moi, je vois ça comme un sacrifice de notre temps et de nos biens. Philippiens chapitre 4, verset 18, Paul dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce que vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Donc, les dons généreux qui est venu à Paul pour rencontrer ses besoins étaient vus comme un sacrifice des croyants envers ses besoins. Il dit, il termine en disant, ça plaît Dieu ça. Dieu est content de voir ça. Laisse-moi le dire d'une autre manière. C'est la volonté de Dieu que ça soit fait. Les sacrifices de notre substance. Moi, je vois ça comme du sacrifice désintéressé qui se manifeste dans deux manières. Un, des œuvres de compassion. Moi, je me donne de mon temps pour aider d'autres personnes et des dons généreux. Des prêtres croyants, c'est du monde généreux. Dieu va combler leurs besoins, pas juste pour rencontrer leurs besoins, mais pour qu'ils puissent aussi rencontrer les besoins des autres. Des dons généreux. Mon temps et mon trésor. Verset 16 termine très clairement en disant, « Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Est-ce que vous voulez plaire Dieu? Si vous voulez faire sa volonté, voilà les responsabilités que vous avez devant Dieu. Mais avant de terminer, vous avez une autre responsabilité. Pas seulement des sacrifices spirituels, mais vous avez aussi la responsabilité comme croyant sacerdoce ou croyant prêtre d'intercéder. Vous avez un ministère d'intercession. Et là, je vais vous donner un paquet de versets. Les notes sont ici au bureau. Si vous voulez la voir, consulte Danny, il va vous le fournir. Mais je vais juste vous donner une vue d'ensemble parce qu'il y a tellement de versets sur notre responsabilité d'intercession. Dieu n'est pas obligé d'écouter les non-croyants. Jean chapitre 9, le verset 31. Seulement les croyants sacerdoces peuvent intercéder à Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 15. Pour tout le monde, 1 Timothée 2, 1, Éphésiens 6, 18. Il peut demander n'importe quoi. 1 Jean 5, 14. Dans les noms de Jésus, Jean 14, 13. Continuellement, 1 Thessaloniciens 5, 17. Et j'ai même pas mentionné Jacques chapitre 5, où Dieu nous demande d'intercéder avec ferveur et efficacité. Moi, je prends mon rôle d'intercédeur très, très sérieux. Chaque matin, généralement, ce matin, à 6h moins quart, je me lève, café d'abord. J'ai une liste d'intercessions. Moi, je l'organise par jour de la semaine, 7 jours sur 7. J'ai des gens qui j'intercède pour. Ça, c'est mon rôle comme croyant prêtre. Pas parce que je suis pasteur, pas parce que je suis responsable d'implantation d'église, parce que je suis quelqu'un qui appartient à Dieu. Et j'ai un rôle à jouer, j'ai un accès libre et direct à Dieu. Et j'ai les responsabilités d'intercéder pour les gens autour de moi, ma famille, mes voisins, les gens avec lesquels je fais affaire, mes implanteurs d'église, mes contacts dans l'évangélisation. J'ai un rôle d'intercession. Et je soupçonne que la raison pour laquelle on ne voit pas grand-chose arriver dans nos vies, c'est parce qu'on n'est pas en train de demander. Il y a un verset qui dit ça quelque part. Il ne faut pas séparer notre relation avec Dieu avec notre relation avec les autres. Dans 4 textes des Écritures, Dieu dit qu'il ne répondra pas à nos prières si nous avons péché contre quelqu'un d'autre. Juste brièvement, Isaïe 58, les pauvres. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, notre famille chrétienne. Matthieu 6, versets 14 et 15, ceux qui nous ont fait du tort. Si vous ne demandez pas pardon, Dieu non plus. Et celle qui me touche beaucoup, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, ma femme. Le verset est très clair. Si je n'agis pas avec sagesse et honneur envers ma femme, arrête d'intercéder, ça ne marche pas. Dieu ne va pas répondre à mes prières. Ça, c'est ma responsabilité comme prêtre sacrificateur devant Dieu. Pécher contre les autres nous exige d'abord d'être réconciliés avec eux pour encore ouvrir mon chemin vers l'Éternel. Êtes-vous à intercéder intentionnellement et régulièrement pour ceux et celles autour de vous? Comme prêtre, cela est votre responsabilité. Donc, un résumé de cette section. Chaque croyant est un prêtre avec les droits de libre accès dans la présence de Dieu, mais aussi avec la responsabilité de faire des sacrifices spirituels acceptables à Dieu. Des dons de soi-même, des dons de discours publics, louanges de reconnaissance et témoignages sans honte, et son service désintéressé, soit des œuvres de compassion ou des dons généreux. Et d'intercéder à Dieu pour ceux autour de lui, croyants comme non-croyants. Moi, j'ai un rôle d'intercédeur. J'ai un travail à faire. Et je crois réellement que Dieu veut qu'on accomplisse cela pour sa gloire. Donc, laisse-moi juste résumer un peu quelques pensées concernant notre rôle. Moi, je crois que dans nos églises locales, les chrétiens, même les prêtres croyants, ont une tendance naturelle dans nos assemblées de se renfermer naturellement sur eux-mêmes. Moi, je crois que nous, comme ceux qui appartiennent à Dieu, naturellement, on aime être avec ceux et celles qui sont semblables à nous. On est bien. C'est nos leaders qui ont la responsabilité de nous diriger hors de nos zones de confort. Êtes-vous prêt d'aller là? Êtes-vous prêt d'aller vers les gens de l'extérieur? Êtes-vous prêt à aller faire le travail que Dieu nous exige de faire, d'avoir un témoignage sans honte devant les gens autour de nous? Moi, j'aime, on a besoin de bâtiments, mais souvent, nos bâtiments peuvent être des murs qui nous isolent de la communauté autour de nous. Et nous avons besoin de bâtir des ponts vers les communautés autour de nous. Donc, des communautés, nous avons plutôt de dire, OK, combien de gens étaient au culte le dimanche matin, à dire, comment est-ce qu'on a transformé notre communauté? Si on était pour disparaître ici ce matin, est-ce que l'Longueuil notera qu'il y aura une différence? Est-ce qu'on est en train d'avoir un impact comme enfant de Dieu, comme membre du royaume de Dieu, dans la communauté autour de nous? Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'on mesure notre impact plus que notre assistance. Nous avons aussi besoin d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère plutôt que les encourager seulement à assister nos réunions. Nous avons besoin, en tant que ceux qui appartiennent à Dieu, d'être équipés dans les dons particuliers que Dieu nous a donnés pour être fidèles dans notre rôle et responsabilité que Dieu nous a donné. Et dernièrement, je vous encourage. C'est très facile de voir ceux qui sont au ministère à temps plein comme étant nos serviteurs. Ils ont un rôle à jouer à moi. Moi, j'aimerais vous encourager, comme des croyants serviteurs, des sacerdotes, des prêtres, de laisser vos leaders être des leaders dans la communauté, de représenter Christ dans d'autres secteurs de la communauté, de prendre du temps auprès des leaders à Longueuil et dans les différents organismes qui font partie de cette communauté pour avoir une influence et vous équiper pour que vous puissiez avoir une influence dans la communauté autour de vous. C'est Émile Brunner, vous pouvez changer Nathalie, plusieurs, continue une autre, encore une autre, on va arriver tranquillement là, ok, une autre, c'est beau, hein? C'est fun, c'est ça, ok, une autre, plutôt que servir, c'est moi, j'ai dit ça, hein? Vous avez vu ça, ok, une autre. Bénir et prier pour la communauté. Laissez votre pasteur à la prière. Ah, c'est là que je veux. C'est Émile Brunner qui a dit, l'Église existe à cause de sa mission, comme le feu existe par ses flammes. L'Église existe à cause de sa mission, comme le feu existe par ses flammes. La croissance de l'Église passe par chaque croyant. Donc, mes confrères et sœurs, comme des croyants sacerdoces, tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le pont. Amen.